dans Osée au chapitre 3, on va lire le chapitre au complet. Ça paraît impressionnant quand on dit ça, mais c'est juste 5 versets. La parole du Dieu vivant. L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 sicles d'argent et un homère et demi d'or. Et je lui dis, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même avec toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Ah, Seigneur, on veut, comme on vient de le lire dans le dernier verset, on veut te chercher ce matin et tressaillir de joie au fait qu'on peut te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, le Fils de David, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est courbé devant toi, le grand Dieu trinitaire qu'on vient ce matin. On vient bas, on vient humble et peut-être aussi humilié, mais Seigneur, on vient dans cette posture parce que c'est la seule qui te plaît. Seigneur, brise la résistance de nos cœurs, l'insistance sur notre volonté. Seigneur, que toute langue se taise devant toi et que toute oreille soit disposée à entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, je veux me cacher derrière toi avec ce que toi tu veux révéler, Seigneur, à ton peuple ce matin. Je te prie que je puisse être simplement disposé comme instrument entre tes mains pour donner à ce peuple qui est le tien, le pain de vie, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre rédemption, notre Rédempteur compatissant. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à toi et à toute ta volonté. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Avant de vous parler, à proprement parler, du livre d'Osée et de ce qu'on va regarder ensemble, je veux juste faire une petite rétrospective par rapport à ce qu'on a vu dans les deux derniers messages, parce que vous savez que c'est une petite mini-série, si vous voulez, qu'on fait depuis 3 semaines. Aujourd'hui, on est à la 3e semaine. Où est-ce qu'on considère Christ, notre rédemption, un peu comme on considérait un album photo. On regarde des images de la rédemption. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu, dans le premier message, dans Genèse 22, hein, l'image d'Abraham et son fils qui offre comme ça. Ça nous donne l'image de Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Et cette image a une place, si vous voulez, d'ouverture dans le plan rédempteur. Hein, ça l'ouvre, tout ce plan qui se déroule après ça par la suite des temps dans le reste de la parole de Dieu. Et on voit la bonté de l'Éternel qui est mise de l'avant de par l'acceptation qu'il a du sacrifice qu'Abraham offre par la foi. Et ça, mes amis, ça met fin au rejet. Il était accepté, ça met fin au rejet qui, depuis le jardin d'Éden, hein, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été chassés du jardin. Et là, Dieu acceptait cet homme, pas sur la base de sa bonté, mais sur la base de sa foi dans ce Dieu qui pourvoit, qui a pourvu à ce moment-là, puis qui allait aussi pourvoir. Tout ça nous pointe à Christ, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. En Ruth, la semaine passée, dans le livre de Ruth, on a vu Jéhovah Oshiana. Rappelez-vous, quand Jésus là, il est descendu de Jérusalem, les gens disaient Hosanna, Hosanna. Okay? C'est la même idée là, que le mot Oshiana, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve, Dieu délivre. Il y a même l'idée de restauration. Et cette image, cette deuxième photo de l'album, photo de la rédemption, nous a une place d'espérance dans le plan rédempteur où Dieu qui est fidèle donne la sécurité à Ruth qui était une femme dans une grande vulnérabilité. Le fait d'être femme, le fait d'être veuve, le fait d'avoir laissé son pays, il y a toutes sortes de choses. Et elle qui est allée trouver son refuge auprès de l'Éternel, elle est allée se placer sous son aile. Et tout ça, c'est la restauration de ce qui avait été perdu en Éden avec la peur. Elle pouvait enfin avoir la sécurité à être abritée de cette peur qui nous hante tous lorsqu'on est loin de l'Éternel. Aujourd'hui, dans ce troisième message, la troisième photo, c'est avec le livre d'Osée. Où est-ce qu'on va considérer ensemble Jéhovah Chasdi, Dieu aime, Dieu rachète, Dieu réconcilie. Et je dirais que la place que ça a dans le plan rédempteur, c'est une place d'accomplissement, de résolution. Ça boucle la boucle, ça amène les choses à leur point culminant. Et nous y voyons la compassion de Dieu qui est mise de l'avant par la valeur ou l'importance que Dieu donne à son peuple, à son reste racheté, qu'il rachète à un grand prix. Toutes ces images qu'on a vues avec la femme, là, ça nous pointe encore là. Tout à Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et qu'est-ce que ça fait par rapport à ce qui avait été perdu en Éden? Ça met fin à cette honte. Cette honte du péché. Dieu qui, même une personne dans une situation honteuse par son amour, la rachète, la restaure, la ramène. J'aimerais qu'on voit que ces trois images-là nous dressent un portrait suivant. Je vous amène ça, là, c'est en introduction pour vous mettre un peu l'image d'ensemble de ce qu'on a vu depuis aujourd'hui la troisième semaine, donc depuis deux semaines, puis aujourd'hui ça fait trois. D'abord, ça nous montre quelque chose de très important par rapport à notre Dieu. Ça met de l'avant trois attributs de Dieu qui ne sont pas sans importance. Les attributs de Dieu auxquels on s'accroche quand on est dans le désespoir, comme Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie a dit lorsqu'il perdait espérance? Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Il y a trois attributs de Dieu qui met de l'avant dans Lamentations 3, 21 à 25. C'est la bonté de Dieu, sa fidélité, puis sa compassion. Exactement comme on l'a vu avec les trois images. La bonté, la fidélité, la compassion. C'est trois qualités relationnelles de l'Éternel. D'ailleurs, l'Éternel, c'est le nom relationnel de Dieu. C'est son nom de l'Alliance. C'est son nom du fait qu'il n'a pas oublié les promesses faites, qu'il n'a pas abandonné son peuple malgré tout ce qui peut arriver. Et ces trois qualités-là de Dieu, ces trois attributs, ça va de pair avec la révélation de ce nom, de l'Éternel, sa bonté, sa fidélité, sa compassion. C'est ce qui nous rattache à lui. Et qu'est-ce qui nous rattache à lui? Ça, c'est Dieu qui est l'initiateur de ça. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu, c'est ça notre seule espérance. Mais nous, pour s'accrocher à ça, il y a trois choses qu'on voit aussi. Non seulement il y a trois attributs de Dieu qui sont révélés dans tout ce qu'on a vu, mais aussi trois vertus chrétienne qu'on appelle, rappelez-vous, j'ai donné ce mot-là, j'ai dit, c'est quasiment un gros mot, on ne dit pas des gros mots dans l'Église, mais c'est des vertus théologales. Ah, c'est un gros mot, des fois, qui peut faire peur au monde, en fait, c'est pas très épeurant. Ça, c'est les vertus qui nous rattachent, nous, à Dieu. La bonté, la fidélité, la compassion de Dieu, c'est Dieu qui va vers nous. Et la foi, l'espérance et l'amour, c'est ce qui nous accroche, nous autres, à Dieu. Les vertus théologales, la foi d'Abraham, l'espérance de Ruth, et on va voir l'amour d'Osée. Tout cela, c'est le développement du plan rédempteur qui restaure, qui remplace ce qui avait été perdu en Éden et qui est pleinement restauré en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'acceptation prend la place du rejet. La sécurité prend la place de la peur. Et l'amour, la valeur, l'importance qui est rattachée ici au rachat prend la place de la honte. Wow! Quel rédempteur! Quel Dieu de toute grâce! Fait que j'aimerais ça qu'on considère plus en détail cette troisième photo de l'album photo de la rédemption en considérant ensemble trois faits simplement sur cette image-là qui nous est dressée ici avec le livre d'Osée. D'abord, j'aimerais qu'on voit la place de cette image. La place de cette image dans le plan rédempteur de Dieu. Je dirais que la place est une place d'apogée, de culmination du plan rédempteur de Dieu. Parce que l'amour, c'est la consommation du plan rédempteur de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et donc, tout se résout, tout se termine avec son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On voit que vraiment l'amour, c'est ce qui résout, c'est la fin qui règle une fois pour toutes. Dieu, dans son amour, répond parfaitement aux besoins de l'homme. Et évidemment, c'est un amour qui n'est pas mérité. L'image est donnée ici, elle est forte, qui se marche choquante. Hein? Dieu qui dit ça à son prophète, mais c'est ce qui arrivait entre lui et son peuple. Et c'est pour ça que quand on lit le verset 1 au chapitre 3, l'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. » Ça, c'était tout ce qui était rattaché au culte idolâtre. Ces gâteaux-là. On pourrait dire que le verset 1, c'est le commandement impossible. Impossible et dont Dieu est la mesure. Aime-la comme moi j'aime. Dieu est la mesure du commandement. Et c'est impossible pour nous, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas impossible pour Christ en nous. Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La source n'est pas en nous, la force n'est pas en nous, mais en Dieu. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire, peut nous rend capables d'aimer comme ça. Et c'est le plus grand des commandements, l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, qui renferme, qui englobe tous les éléments précédents du plan rédempteur. Donc là, je vous dis, ce message-là fait la boucle sur tout ce qu'on a vu. D'abord, les vertus théologales, ce qui nous rattache à Dieu, là, la foi, l'espérance, l'amour, tout ça est accompli dans l'amour. La plus grande de ces trois, c'est l'amour. C'est l'accomplissement de la loi. Et celui qui est parfait dans l'amour n'a pas de crainte. C'était quoi qu'on voyait avec Ruth? Ruth était dans une situation de peur, de crainte. L'amour de Dieu résout cela. Et cet amour, c'est un amour qui croit en Dieu comme Abraham a cru à Dieu. Et ça lui fut imputé à justice. Il a cru que Dieu lui demandait quelque chose. C'était pas pour le détruire. Il croyait que Dieu avait un plan et qu'il l'aimait. Et donc, c'est aussi cet amour qui est accepté par le Seigneur, qui est fondé sur la foi dans qui l'Éternel est. Si on pousse un peu plus notre réflexion par rapport à la place de cette image, on voit au verset 5, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. » Ici, quand ça parle de David, ça parle de Jésus, parce que Jésus, c'est le fils de David. On sait qu'ici, ce n'était pas une résurrection du roi David de l'Ancien Testament, ça nous parle vraiment de Christ. « Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? L'acceptation par la bonté de Dieu. Dieu va les reprendre, va les accepter parce qu'il est bon. Et ce rejet qu'on voit ici, parce qu'il dit qu'ils ont été vers les idoles, puis il y a tout le rejet qu'on voyait. Dieu, l'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Jiré, lui-même allait pourvoir à la solution aux problèmes dans lesquels eux-mêmes ils s'étaient vautrés. Mais regardons aussi chapitre 2, verset 22. « Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Non seulement il y a l'acceptation qui est retrouvée, mais par la fidélité de Dieu, cette peur, parce que Dieu est fidèle, la peur qu'il aurait pu avoir d'être rejeté puis de plus connaître l'Éternel, Dieu aussi allait mettre fin à ça. Jéhovah Oshiana, le Dieu qui nous protège de nous-mêmes, des menaces extérieures, de tout ce qui peut nous faire peur, Dieu allait aussi combler ce besoin à cause qu'il est amour. Donc, on voit comment l'amour de Dieu est complet, est englobant, il est parfait, parce que on trouve tout ce qui comble nos besoins les plus profonds. On a besoin d'être sécure, on a besoin d'être accepté, on a besoin d'avoir une valeur, d'être reconnu comme étant quelqu'un qui a une valeur. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui nous le redonne. Si vous êtes ici puis vous êtes sauvé, c'est pas ailleurs qu'il faut chercher cette sécurité, cette valeur, puis cette acceptation. Puis je veux prendre le temps de mettre le point sur ce « i ». La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi on a si peur, qu'on est si agité, puis qu'on agit comme on agit? Parce qu'on ne croit pas, on n'accepte pas l'amour de Dieu. Puis quand ça arrive, on se prend nous-mêmes pour essayer, on se prend pour Dieu. On essaie de régler nous-mêmes, puis on essaie de vaincre nos peurs, parce qu'on ne croit pas, on n'accepte pas l'amour de Dieu. On n'est pas sécure dans son amour. Réfléchissez là-dessus. Pourquoi je fais tout ce que je fais qui me met dans le trouble? Parce que je cherche à gauche, à droite, ces choses-là qui se retrouvent tous en Dieu et en Dieu seul. Je vais développer plus là-dessus plus tard, mais je veux vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter là-dessus sur le fait comment c'est important et comment tout ça, tout ce qui a été perdu de ces besoins les plus profonds qu'on a dans nos cœurs et retrouver en Jésus-Christ. Cet amour, c'est pas juste une théorie, on le retrouve en Christ. Que ceci nous fasse apprécier ce verset de 1 Jean, chapitre 14, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On peut juste connaître l'amour parce que Dieu est amour puis qu'il nous a fait connaître son amour puis qu'on est dans cet amour. Sinon, on ne sait rien de l'amour. Dieu, enseigne-nous ton amour. Convainc-nous de ton amour. Je crains que des fois les chrétiens, au nom de la justice, au nom de vouloir être droit, on a négligé l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, des fois, on peut prendre ça comme le monde romantique, puis ça fait un peu tata. Puis... Non, l'amour de Dieu est viril, il est vrai, il prend soin, il est bon, il est sécurisant. Parce qu'on a négligé quelque chose de tellement fondamental, c'est pour ça qu'on est si agité, qu'on promène les regards inquiets, qu'on a si peur. Qu'on veut essayer d'être accepté par, à gauche, à droite, par tout le monde, puis essayer de trouver notre valeur là-dedans, parce qu'on ne le trouve pas dans l'amour de Dieu. Pourtant, c'est la seule place où est-ce qu'on peut vraiment le trouver et s'y reposer, et être content et comblé. Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples, et encore Dieu met le comble à son amour pour nous, en nous révélant cet amour. Ça m'amène à la deuxième chose que j'aimerais qu'on considère par rapport à cette image de notre Rédempteur compatissant. C'est la signification de l'image. Non seulement il y a une place dans le plan Rédempteur qui est celle d'englober, de boucler la boucle, mais dans le chapitre 2, versets 21 à 25, on voit la signification de l'image. Regardez versets 21 à 25. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moût et l'huile et ils exauceront Israël. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays. » Et je lui ferai miséricorde, je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. J'aimerais qu'on voit ici la compassion du Rédempteur. Dieu nous révèle la compassion qui est, c'est ça, bon, l'amour de Dieu, sa compassion. Pourquoi? Parce qu'il a donné de la valeur à ceux qui sont délaissés, méprisés, rebelles et idolâtres. Pensez à ça, là. Est-ce qu'Israël, est-ce que Gomer, cette femme, est-ce qu'elle méritait de se faire comme ça, donner une valeur pour devenir la femme du prophète et tout ça? Pas du tout, puis c'est ça le point. C'est qu'on voit la compassion de Dieu qui donne de l'importance à ce que nous, on pourrait dire qu'il est méprisable, qu'il n'y a rien à faire avec. Mes amis, pensez à ça, là. Cette femme ressentait de la honte. Et c'est pas comme à l'époque, c'est pas comme en ce moment où est-ce que on accepte tellement de choses desquelles on devrait avoir honte. Il y avait beaucoup plus ce sens de la honte. La conscience n'était pas aussi endurcie. Mais pensons que Dieu a remplacé cette honte. Cette honte, hein, comme avec dans le jardin, là, ça n'a pas été long après que la honte est rentrée dans notre première famille avec le meurtre. Puis là, ah, là c'est ça, le péché est rentré, puis toute la honte qui va avec. Mais cette compassion, elle est fondée pas sur n'importe quoi. Regardez au verset 21, « Je serai ton Dieu pour toujours. » Ok, donc on voit la compassion de Dieu qui s'allie à son peuple. Puis regardez sur la base de quoi? « Je te serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, puis aussi par la fidélité. » Donc, la compassion de Dieu, ce n'est pas un caprice, elle est fondée sur son caractère. Et c'est ça, c'est ce caractère-là de Dieu qui nous sort de notre condition misérable, qui nous ramène à sa vie et qui nous unit à lui. Et ça, mes amis, il y a le côté compassion, mais aussi le côté justice, le côté vérité. Dieu ne fait pas ça comme juste, oh, « Ok, toi, je te donne un passe-droit. » Non, quand il nous sauve, c'est un acte légal où est-ce que le coupable est déclaré juste, ou est-ce que celui qui est impur est déclaré pur, c'est basé sur la justice de Dieu. Et ça, c'est tellement important. C'est le grand dilemme de la parole de Dieu. C'est ce qui est résolu dans la croix. Comment un Dieu juste, qui n'excuse pas le péché, puis qui même dit que celui qui absout le coupable est une abomination devant lui, comment ce Dieu-là qui dit ça va pouvoir faire miséricorde à tout le monde qui est coupable? C'est ça la croix, c'est la réconciliation. La justice et la miséricorde se rencontrent à la croix. Et c'est ça qui est dans le message ici. On voit, ben voyons donc, cette femme-là, puis toute cette situation-là, ça ne marche pas. Puis le peuple de Dieu qui est idolâtre, qui ne veut rien savoir, c'est là qu'on voit Dieu n'a pas fait un passe-droit. Dieu a résolu le problème à la croix. Tout ça nous pointe à la plus grande vérité de l'univers, la croix du calvaire. Où est-ce que tout est réconcilié? Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même. Et ça, mes amis, regardez ce que ça doit produire. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Et OK, le reconnaître, dire OK, c'est l'Éternel, mais reconnaître, on peut dire, c'est connaître de nouveau. C'est apprécier de nouveau. Et là-dessus aussi, je veux prendre le temps d'expliquer la reconnaissance. Savez-vous quand on devient aigri, quand on devient qu'on trouve tout le temps quelque chose qui ne marche pas? C'est un piège, c'est dangereux, puis c'est parce qu'on a perdu la reconnaissance envers Dieu. Oui, mes amis, c'est un piège qui est vraiment là, qui peut tous nous prendre. Et ça nous prend avec les gens qu'on aime le plus. Qu'on devient le moins reconnaissant, qu'on devient le plus amer, aigri et pas content, puis ça nous gruge le cœur. Ça détruit les relations. Ça peut détruire une église comme ici. Quand ça va dans les familles, quand ça va dans les relations interpersonnelles. Et tout ça commence avec Dieu, et c'est Dieu qui ouvre les yeux. Chapitre 1, verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent, l'or qui les prodiguait. Pourquoi elle tombait dans le péché de même? Parce qu'elle avait oublié l'Éternel. Elle ne reconnaissait plus l'Éternel, la source de sa vie. Est-ce que tu es reconnaissant? Et je dirais même ébloui par la compassion de Dieu qui te donne de la valeur. Parce que, je veux dire, juste de s'arrêter là-dessus que Dieu a baissé le regard sur moi, que Dieu a compassion de moi qui ne voulait rien savoir, puis même encore, moi, dans ma dureté en ce moment, même comme enfant de Dieu, que Dieu encore a compassion, miséricorde de moi. Mes amis, on va voir ça après-midi avec le pardon. Mais Jésus a donné une leçon puissante dans Matthieu 18. Quand on oublie ça, on est dur envers les autres. Il y a une corrélation directe. La parabole de celui qui avait été pardonné énormément, puis qu'il avait oublié ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'eau? Il l'étranglait. Il l'étranglait, mais ça, c'est une image. Puis, mais savez-vous ce qui arrive? Cette personne-là, c'était la plus misérable. OK, elle a étranglé son ami, mais elle était livrée au bourreau. Puis on va voir ça l'après-midi, là. Mais cette personne-là était misérable. Puis beaucoup voient cette conclusion de la parabole livrée au bourreau, puis tout ça, de la misère, du tourment intérieur qu'on a lorsqu'on ne pardonne pas, on est les plus misérables. C'est nous qui payons le plus grand prix. À suivre cet après-midi. Si vraiment tu n'es pas ébloui, reconnaissant de la compassion de Dieu qui te donne une valeur, peut-être que tu n'as pas compris son amour. Parce que tout tourne autour de ça. Sonde-moi, ô Dieu. Ou peut-être que c'est le cas pour un enfant de Dieu, mais peut-être que c'est pour montrer aussi que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si c'est le cas, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que, je veux dire, si on a tellement le cœur endurci par rapport à Dieu qu'on n'est même pas touché par sa compassion, je pense qu'il y a quelque chose qui, vraiment, qui tourne pas rond. Ah, mais regardez le verset 16 à ce sujet-là. C'est 2:16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Peut-être qu'il dit, ouais, mon cœur s'endurcit, je ne suis pas dans une bonne position. Prie que l'Éternel t'attire pour te sortir de ta situation, qu'il t'amène dans le désert, s'il faut, pour sentir ta misère, puis qu'il parle à ton cœur. Vous savez, des fois, on est là, puis, ah, mais Seigneur, pourquoi ça arrive? C'est donc bien désagréable. C'est peut-être la meilleure chose qui est en train de t'arriver. Dieu est en train de briser ton cœur pour t'amener dans le désert puis parler à ton cœur. Puis regardez versets 23 et 24. En ce jour-là, remarquez là, le mot exaucer 5 fois. J'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé. Et le blé et l'huile, ils exauceront Jisraël. 5 fois le mot exaucer. Pourquoi? Parce que la compassion, l'amour de Dieu comble le vide. Exauce nos recherches les plus profondes, tout ce qu'on a essayé de chercher ailleurs, soit de le rechercher même dans les choses de Dieu au lieu de Dieu lui-même, c'est l'amour de Dieu qui va nous combler, c'est lui qui exauce. On n'aura jamais ce qu'on cherche tant qu'on ne le cherche pas en Dieu. Il est le don qui comble, le don de tous les dons. Alors pourquoi poursuivre les choses vaines si on a tout pleinement en Jésus-Christ? Vous savez qu'il y a un livre au complet. Ça veut dire que c'est important. Il y a un livre au complet de l'Ancien Testament qui a été écrit à ce sujet-là, puis qui est un livre évangélistique, mais qui est aussi pour le peuple de Dieu. Mais le livre d'Ecclésiaste a été écrit au complet pour quelqu'un qui cherche ici-bas à trouver la satisfaction. Puis l'ironie, c'est que c'était l'homme le plus sage, le plus riche, qui avait absolument tout ce qu'il y a sous le soleil. Puis c'est quoi sa conclusion? Vide. Vanité. Mirage. J'ai cherché, puis je n'ai pas trouvé. Sauf qu'à la fin du discours, il dit, voici ce qui fait le tout de l'homme. Voici ce qui satisfait vraiment. C'est Dieu lui-même. Amen. La foi et l'obéissance, croire, obéir, crains l'Éternel et observe ses commandements. La foi vivante, voilà la réponse. C'est ce qui nous attache à Dieu. J'ai déjà entendu un bon message par rapport à cette simple idée, puis c'était un message avec Moïse dans le désert, dans Exode 3. Mais voici la phrase, elle m'a toujours resté cette phrase-là, puis c'était le titre du message, puis peut-être que le pasteur pendant, je sais pas, 30 fois il a dit ça, c'est une... You get what you're looking for, c'est en anglais. On obtient ce qu'on recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Encore là, je veux pas y passer trop vite là-dessus. Qu'est-ce que vraiment tu recherches? Tu vas trouver ce que tu recherches. Mais c'est quoi que tu recherches? On a besoin de croire que Dieu est plus que suffisant et que toute recherche pour la satisfaction ailleurs qu'en lui, ça ne va jamais nous amener à la réelle satisfaction. Puis savez-vous quoi? Ce n'est pas basé dans la foi et dans l'humilité, c'est basé dans l'orgueil et l'incrédulité. Vous savez, on recherche souvent dans les circonstances, dans les relations, cette satisfaction. Et elles amènent une satisfaction. Ceux qui ont issu une famille, je veux dire, c'est une bénédiction de l'Éternel. Être en couple, avoir une église, je veux dire, c'est pas que ça n'amène pas de satisfaction, j'espère, puis ça fait partie des bénédictions de l'Éternel. On est content d'être ici. Mais là, on part pour le besoin profond du cœur insatiable. Parce que sinon, je peux devenir une espèce de sensue relationnelle. Ou est-ce que j'en veux toujours plus? Puis là, ça devient même problématique à un moment donné. Pourquoi? Parce que ces relations-là ne pourront jamais donner ce que Dieu seul peut donner. Il n'y a rien qui peut suppléer à Dieu. Tout ça doit me diriger à Dieu. Et plus je suis en relation avec Dieu et satisfait en lui, plus je vais bénir les autres dans mes relations. Mais si je fais l'inverse, c'est une question d'ordre. Si je recherche dans les relations, je m'assèche avec Dieu. Mais si je vais à Dieu qui est la source d'eau vive, lui qui toujours satisfait, ben je vais être une fontaine de bénédiction pour les autres autour de moi. Ça m'amène au troisième point du message. Non seulement il y avait la place de l'image, la signification de l'image, et maintenant j'aimerais qu'on voit la puissance de cette image avec le chapitre 1, verset 7. Juste un verset ici. Oh, voyez-vous, on voit le caractère de Dieu qui est tellement manifesté, cet aspect du caractère de Dieu dans Osée. « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Ceux qui connaissent la parole de Dieu, quand on est une affaire de même, c'est sûr que vous avez pensé à Zacharie 4:6. Alors, il me reprit et dit, « C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Même idée ici. La puissance de l'image ici, c'est que il n'y a rien de nous-mêmes, par notre chair, que nous puissions faire pour améliorer notre situation. L'explication ici de la puissance de cette image va nous aider à comprendre ici c'est quoi qu'il en est. Si on s'en va avec le chapitre 3, verset 1, encore avec l'idée de cet homme qui se fait dire « Va et aime une femme, aimée d'un amant, adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se retourne vers d'autres dieux et qui aime les gâteaux de raisin. Comment Dieu sauve? C'est pas avec les moyens humains. En fait, c'est totalement déraisonnable. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Une image du salut où Dieu paye le prix de notre achat sur le marché des esclaves. Je l'ai acheté, verset 2, pour 15 cycles d'argent. C'est le prix d'un esclave. Et donc ça, c'est une image de nous, pécheurs, qui sont rachetés par le sang de Christ étant esclave au péché. Là-dessus, écoutez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on voit que Dieu ne sauve pas avec les moyens que l'homme prend. L'homme, c'est quoi finalement l'aide humaine, souvent quand on résume ça? C'est comment je peux améliorer ma chair? Comment je peux améliorer le règne du moi dans ma vie? Dieu, c'est complètement l'inverse. Il dit, zéro moi, t'as pas besoin de ça. C'est pas par la force, c'est pas par tes moyens, c'est pas en retroussant tes manches ou en ayant des manches courtes. Mais c'est par moi, dit l'Éternel. La puissance de l'image, c'est que c'est tout par la grâce de Dieu et que c'est dans la misère, c'est d'une personne dans une situation honteuse. Savez-vous qu'il y a des passages, des fois dans la Bible, on est extrêmement gêné des lire, surtout dans l'Ancien Testament. Parce que le péché, c'est honteux, c'est pas beau. Puis Dieu ne veut pas essayer d'embellir. Le péché, c'est laid et ça nous montre le besoin de la beauté, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout ça, on le retrouve avec le rachat qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre rédempteur. Donc, la puissance de l'image, c'est ça. C'est l'amour de Dieu qui rachète, qui prend quelqu'un comme ça dans une situation de honte et qui lui redonne de la valeur, une place d'honneur. Et j'aimerais juste qu'on puisse conclure avec une pensée avec tout ça ce matin. Dans chapitre 6, c'est versets 1 à 3. Il y a des perles dans Osée. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous encourage à le lire. Si vous ne l'avez pas lu, ça fait un bout de temps, je vous encourage à le relire. Ah, mais regardez, ça va être la conclusion du message. Regardez le chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est un appel qui est là tout tracé devant nous dans la parole de Dieu. Et donc cet appel, c'est seulement celui que je vous lance ce matin. Connaître. Connaître l'Éternel. Rechercher à le connaître. Le découvrir. Pas juste avoir des choses qu'on connaît à son sujet. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça aussi. On peut se satisfaire de connaître le Seigneur d'une façon intellectuelle. Puis, ah, là, c'est ça notre recherche. D'une façon émotionnelle ou expérimentale. Ah, je me sens comme ça avec Dieu. Ou d'une façon volitionnelle, avec notre volonté. Ah, là, je fais tout ça pour Dieu, ça veut dire que je le connais. Vous savez quoi, c'est trois pièges qui sont subtils de par le fait qu'ils ne sont pas mauvais. Mais ils ne sont pas complets. L'amour de Dieu, c'est complet. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ce qu'on arrive, c'est que, dépendamment de nos tendances, les milieux chrétiens, des fois, on dit « Ah, ben ça, ça veut dire ça, connaître l'Éternel. » Avec notre intelligence. « Ah non, ça veut dire ça avec nos émotions. » Non, c'est tout au complet. Puis, c'est transformant. Ça produit, c'est global, c'est entier, puis ça produit un résultat global et entier sur toute notre émotion, notre intelligence, puis notre volonté. Pour ça que ça dit que c'est du cœur qu'on aime l'Éternel. Parce que le cœur, c'est le siège de notre pensée, de nos émotions et de notre volonté. Et c'est pour ça que quand Paul dit dans Philippiens, « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il apprenait de plus en plus à connaître Jésus-Christ, son Seigneur, d'une façon relationnelle. Ça changeait sa façon de penser, ça changeait la façon dont il se sentait, puis ça changeait ses désirs. Tout dans sa vie était affecté par ça. Et il dit, pour lequel je renonce à tout et je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Et écoutez aussi, toujours dans le même chapitre, là, c'était Philippiens 3, 8, écoutez 13 et 14. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une chose. Oubliant ce qui est derrière me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le genre de connaissance dont je parle, comme ça dit ici, là, venons, retournons à l'Éternel, puis de rechercher l'Éternel, d'apprendre à le connaître, c'est le genre de connaissance qui fait courir celui qu'il possède. Nous faire courir vers celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés. Et donc, ma question ce matin, as-tu répondu à l'appel, ou même plus qu'à l'appel, c'est un ordre de croire à ce Rédempteur, de croire à ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils. Est-ce que tu as ajouté foi? Est-ce que tu as reçu la provision de Jéhovah Jiré, de Dieu qui pourvoit? Si tu ne l'as pas fait, tu dois t'humilier, cesser d'insister sur ta volonté ou de résister à la volonté de Dieu et de croire en Jésus-Christ. Jette les armes, tombe au pied de la croix, reçois Jésus comme ton sauveur. Et si tu es un enfant de Dieu, Oh, la délivrance, la joie, la paix de connaître Dieu. Et oui aussi, la communion de ses souffrances. Et la communion des souffrances de Christ, c'est pas juste la croix. Là. Jésus était un homme de douleur, accoutumé à la douleur, accoutumé à la souffrance. C'était tough les relations là, pour Jésus. Là. Il était dans un monde tout brisé, lui qui était parfait. Là. Nous, on n'est même pas parfait, puis on est avec d'autres toutes pétées, comme dirait notre frère. Des maganés de la vie. Mais quand on a l'amour de Dieu comme ça, qui nous anime, qui nous a saisis, ça fait quelque chose. Puis là, avant de vous demander de prier, puis je veux pas juste qu'on se garoche non plus là-dedans. Dieu nous a parlé ce matin avec sa parole. J'espère que j'ai pas trop été dans les jambes de ce que lui voulait nous communiquer, mais il y a une chose que je sais, par exemple. Dieu est personnel, puis Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne toutes choses, puis nous conduit dans toute la vérité. Donc, je sais qu'il a parlé à quelqu'un à quelque part ici ce matin. En fait, je dirais, il a parlé à tout le monde. La question, c'est est-ce qu'on a entendu? Puis quand on a comme ça l'occasion de répondre, c'est on répond à Dieu. Il y a un temps pour prier pour des gens, le besoin, mais là, on fait affaire avec Dieu. C'est un appel, puis on parle à Dieu avec ce qu'il nous a dit. Je ne suis pas en train de vous dire quoi prier, mais je suis en train de vous amener à garder le focus. J'ai parlé de la part de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que nous, on répond comme peuple à ce Dieu qui vient de nous parler? Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Et Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi. En fait, Seigneur, tu es redoutable. Tu es redoutable dans ta majesté, dans ta magnificence. Et même, Seigneur, dans ta colère contre le péché. Et on ne veut jamais oublier ça, parce que c'est ce qui nous fait apprécier la grandeur de ta compassion, de ta miséricorde. Seigneur, je te prie spécialement que ton peuple ici rassemblé réponde à ce que tu as dit et que, Seigneur, toi qui sondes les cœurs, toi qui parles au cœur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ne se trompe pas nous-mêmes par des faux raisonnements. En voyant les autres, en voyant le problème qu'eux autres peuvent avoir, puis être fixés là-dessus. Mais Seigneur, que seul devant toi ce matin, on réponde à ce que tu nous as dit chacun personnellement. Et Seigneur, qu'on soit aussi saisi, réconforté dans le fait que ton amour divin surpasse tout ce qui peut y avoir comme amour humain. Et que ce soit toi qu'on recherche, le Dieu vrai, vivant, et dont le seul nous donne le vrai amour. Ah Seigneur, qu'on te recherche, qu'on retourne à toi, qu'on apprenne à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Pas juste des choses à ton sujet, mais toi, ton cœur, qui tu es, Seigneur, révèle-toi à nous. Dirige, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.